France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
C'est son tout premier livre et pour l'écrire, il a passé une nuit dans un musée à Tbilissi, sur la terre de ses ancêtres géorgiens. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Guillaume Gallienne sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, notre exercice quotidien, celui de la critique. Aujourd'hui, on parle art graphique avec l'exposition « Dans le flou, une autre vision de l'art de 1945 à nos jours », à voir au musée de l'Orangerie. Et puis cette monographie à la Monnaie de Paris consacrée au peintre Georges Mathieu. Vous écoutez les Midis de Culture et j'aime beaucoup ce que vous faites. Et pour débattre autour de la table, Stéphane Correa, éditorialiste au Journal des Arts. Bonjour.
Bonjour Marie.
Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'université Picardie. Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Pourquoi peint-il flou ?
Le flou est chez lui un parti pris esthétique.
Le visage flou a toujours eu quelque chose de délibérément monstrueux. Et l'idée qu'un visage flou puisse, par exemple, être rassurant, ça a été plutôt un travail de photographe qu'un travail de peintre.
Je crois qu'on devrait quand même vraiment dresser un catalogue des avantages du flou.
Non, c'est du réalisme parce que j'envoie une sorte de stimulus et chacun va, par rapport à ce stimulus, reconstruire une chose totalement réaliste qui est sa propre histoire. Mmh. Et par exemple, dans les images photographiques que j'ai utilisées, je ne fais pas de photos moi-même, mais j'utilise des photographies, je fais toujours que les visages soient flous. Pour que chacun puisse reconnaître son cousin, son oncle, son grand-père. Et donc, si quelque chose est trop net, ça ne fonctionne plus.
Éloge du flou au musée de l'Orangerie. Vous avez peut-être reconnu parmi les voix que l'on vient d'entendre Christian Boltanski, dont on retrouve certaines œuvres dans cette exposition. Autant en politique, on a compris que si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Autant en matière d'art, le flou recouvre une multitude de significations et d'enjeux. Une façon de montrer un réel qu'on ne comprend plus, une idée du désordre, de l'inexprimable, un voile sur la violence, une volonté d'imprécision, un rêve, parfois peinture, photo, mais aussi sculpture. 83 œuvres sont présentées, de Francis Bacon à Khalil Jorah, de Giacometti à Mircea Cantor, de Gerhard Richter à Nan Goldin. Et puisque nous sommes à l'Orangerie, tout part bien sûr des nymphéas de Monet. On commence avec un avis rapide, Sally Bonne.
Ah, j'ai trouvé que c'est une exposition extrêmement bien pensée autour d'une question esthétique, autant que d'un motif qui permet une lecture ou relecture de l'histoire de l'art récent. Ce qui est en jeu, c'est des questions de perception et d'expérience aussi, mais aussi d'une double question d'importance, à la fois ce qu'on peut montrer et ce qu'on peut voir.
Stéphane Correa.
Oui, en effet, c'est un thème qui est original. Vous l'avez rappelé, Marie, qui se justifie dans cet endroit, l'Orangerie, où on peut découvrir les nymphéas de Monet, qui sont considérés par leur flou, justement, exacerbé, je dirais, par rapport à l'impressionnisme, précurseur d'une certaine abstraction, notamment américaine. Mais à mon avis, les commissaires auraient dû se méfier, puisque vous avez rappelé la phrase qui était de Martine Aubry à propos de François Hollande, en 2011, où elle disait, quand ma grand-mère disait, quand c'est flou, il y a un loup, je pense qu'effectivement, l'exposition n'évite pas certains écueils d'un sujet qui, s'il est excitant intellectuellement, demeure pour moi, après la visite, plutôt brumeux artistiquement.
Sally Bonne, vous, après la visite, les choses étaient plus claires.
Alors, claires, je ne sais pas, et je ne sais pas si c'est ça qui est vraiment en question. Par contre, comme disait Daniel Arras, on n'y voit rien, et là, pour autant, ce qui est en jeu, il me semble, dans cette question du flou, c'est pas tant le fait d'approcher les choses d'une manière jusqu'à les voir de manière claire et transparente, puisqu'on est aussi dans un monde où il s'agit d'être transparent, mais au contraire, c'est une manière de mettre à distance d'un certain plaisir des images spectaculaires. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette exposition, c'est-à-dire que le flou remet à l'œuvre et en œuvre peut-être comme un... Et comme en mouvement, notre capacité à voir et à interpréter, et à comprendre et à saisir les images qui ne seraient pas à saisir et à comprendre dans une immédiateté qui pourrait être éventuellement stérile, mais plutôt dans le temps long de la pensée. Et d'ailleurs, le flou est véritablement, et c'est ce que fait apparaître l'exposition, notamment dans ces premières parties, en fait, c'est la question du temps. C'est-à-dire, est-ce que... le flou rend en fait indistinct la temporalité, mmh. Et nous met aussi en tant que spectateurs dans une nécessité, dans un déplacement aussi qui est certes temporel mais aussi physique, ouais. Et concret. C'est pour ça que je parlais de perception, c'est-à-dire comment on se place vis-à-vis de ces œuvres dont on ne sait pas si le flou il est lié à notre position dans l'espace ou si il est lié à la représentation elle-même. Et c'est aussi cette approche-là, en fait, induit un certain regard, et donc le temps long du regard. Et c'est ça qui est assez singulier, en fait, dans cette question du flou. C'est aussi, ça suppose, en fait, un engagement, en fait, en tant que spectateur, qui exige une disposition de regard, de l'attention aussi, et de l'expérience visuelle. Et c'est ça que je trouve assez beau, en fait, dans l'exposition. D'abord, parce qu'il y a des œuvres qui sont très belles, parfois même assez bouleversantes, et que ce flou, dans ce flou, finalement, il y a quelque chose qui est ce je ne sais quoi, comme disait Yankelevitch, mais qui, en fait, aussi, comment dire, donne une épaisseur à la fois à l'espace, à la couleur peut-être, au contour et aux formes, et puis à la pensée. Et ça me faisait penser en fait à un philosophe, le philosophe anglais de la question du sublime, qui s'appelle Edmund Burke, un philosophe du XVIIIe siècle, qui disait « une idée claire n'est que l'autre nom d'une petite idée ». Voilà, je pensais en fait à ça tout au long de cette exposition, qui me semble bien conçue aussi, parce qu'elle approche à la fois la question de la visibilité ou de l'invisibilité des choses, des questions techniques qui se posent dans la représentation du flou, mais aussi des questions d'ordre politique. Et il y a toute la deuxième partie qui est vraiment sur ces questions-là, hein, ce qu'on peut représenter, et sur la question de l'irreprésentable et jusqu'où on va, on peut aller dans la représentation ou de l'irreprésentable. Et puis après, on arrive à des questions qui sont liées à l'intimité, à l'identité, au flou de l'identité, qui est peut-être moins intense que les deux premières parties de cette exposition.
Stéphane Coréard.
Oui, alors le sujet est effectivement osé, original pour nous. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2023, le musée de l'Élysée à Lausanne, qui est consacré à la photographie, a fait une grande exposition sur le sujet dans laquelle il y avait aussi de la peinture et qui était dans un commissariat d'une chercheuse, Pauline Martin, qui a, semble-t-il, largement contribué à redéfinir et approfondir cette question du flou dans l'art. Alors Laurent Jerry, effectivement, essaye de l'étendre, puisqu'il y a même de la sculpture, vous l'avez dit, un peu de cinéma aussi. L'exposition est globalement, même si c'était un work in progress, je dirais, pour faire... utiliser une expression anglaise, d'après ce que nous dit le catalogue, les bornes temporelles n'étaient pas forcément définies au départ. C'est donc après 1945, c'est donc une exposition d'art contemporain. Néanmoins, la première salle est une salle de prologue qui rappelle un peu les fondamentaux. Donc évidemment, on arrive d'abord sur une peinture de Turner, le très atmosphérique peintre de paysage anglais ou italien du début du 19e. Face à l'entrée, un tableau de Monet, un choix surprenant pour moi, parce que c'est un des nymphéas de 1900 assez abrupt, alors qu'on aurait pu imaginer une vue de la Tamise dans le brouillard, un effet de neige sur Giverny, ou même une gare Saint-Lazare disparaissant dans la vapeur. On aurait aussi pu commencer par un maître du sfumato, puisque dès la Renaissance, cette question du flou, finalement, est présente dans la peinture. À gauche, il y a un accrochage en nuages qui donne, à mon avis, le ton du brouillage qui sera à l'œuvre dans toute l'exposition. Parce qu'il y a de la sculpture, effectivement, il y a un Medardo Rosso, un magnifique sculpteur italien, mais d'assez grand format, alors qu'il fait d'habitude des toutes petites choses où il me semble le flou était beaucoup plus net, si je puis dire. Idem pour Rodin, qui est représenté par un marbre, alors qu'on sait qu'il n'a jamais travaillé le marbre. C'était des praticiens qui faisaient le marbre dans son atelier, donc je trouve que c'est un choix, quand il y a une seule œuvre de lui, un petit peu particulier. Il y a un tout petit tableau d'Eugène Carrière, un peintre qui était collectionné justement par Rodin et qui a fait toute sa carrière sur le flou. Ça aurait été intéressant de voir plus. Il y a une aquarelle de Munch qui ne voyait pas flou, mais avait un problème ophtalmique qui faisait qu'il avait des taches noires. Et l'aquarelle, d'ailleurs, n'est pas flou, ce qui fait qu'on a quand même l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez, effectivement, indistinct. Et puis après, effectivement, on rentre dans ce tunnel contemporain où, à mon sens, il y a effectivement une hypothèse intéressante, un axe que Sally a rappelé, qui est privilégié, à mon avis, peut-être trop, c'est que les artistes contemporains se seraient réfugiés, finalement, dans le flou pour représenter l'irreprésentable, puisqu'on sait depuis Héraclite que ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, et le flou serait une manière de le regarder de côté. Le tournant de l'exposition, à ce titre, c'est vraiment un tournant dans la scénographie, hein, c'est un célèbre tableau de Gerhard Richter, artiste contemporain qui a usé et peut-être abusé du flou. Il est d'ailleurs, je crois, à lui tout seul, il a réalisé 10% des œuvres de l'exposition. C'est une œuvre qui s'appelle September 2005, un tout petit tableau où des tours jumelles du World Trade Center, miniatures comme ça, sont attaquées, mais par de la peinture, finalement par de la peinture raclée, suivant le procédé qu'il a rendu célèbre. Et puis à côté, il y a une photographie, au contraire, monumentale de Thomas Roof, hein, qui s'appelle JPEG New York 01, qui est une vue de New York hyper pixelisée, puisque c'est au départ une source trouvée sur Internet, qui a été largement agrandie. Alors avant ça, on a déjà eu Drôme Mirador du camp d'extermination, photographié par Pruskowski en 92, qui en a superposé 15, les visages angoissants des enfants, effectivement, de Christian Boltanski, comme vous l'avez dit. Donc l'hypothèse est crédible. Néanmoins, moi, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille et alerté, disons, sur la fragilité de cette hypothèse, c'est le tableau de Zoran Mihajlović, un paysage de sol assez beau, un sol aride, hein, du plateau du Karst dans les Alpes. Et il est dit dans le texte de l'exposition que c'est ces artistes, dont Mihajlović, se seraient emparés du flou comme une stratégie nécessaire pour ne pas justement figurer de manière trop explicite les tragédies du XXe siècle. Or Mihajlović, qui a lui-même été déporté à Dachau, sa série de travaux la plus célèbre, c'est Nous ne sommes pas les derniers, qui sont des représentations justement très frontales des charniers et des tortures qu'ont subi les déportés. Donc je trouve que là, il y a quand même un tout qui me paraît un petit peu fallacieux.
Fallacieux, le mot est assez dur, Salibone.
Fallacieux, je suis pas d'accord avec Stéphane Coréard sur cette question-là. Évidemment que le choix de certaines œuvres plutôt que d'autres peut être remis en question, mais ça c'est toujours le cas de toutes les expositions collectives qui sont parfois liées à des possibilités de prêt ou pas. Il m'a semblé que cette partie historique était effectivement le nœud autour duquel en fait s'est construite l'exposition, dans une première partie plus liée à des questions liées presque scientifiques en fait, hein, c'est-à-dire scientifiques et techniques, ouais. L'imagerie médicale notamment, et des questions liées à l'indistinction entre abstraction et figuration, que je trouve effectivement assez intéressante dans la mesure où on a, Stéphane l'a dit, hein, des tableaux, de la photographie, là où on s'attend à du flou dans la photographie. On voit qu'il est présent aussi bien dans la peinture, dans la sculpture, ça c'est moins évident peut-être, dans la vidéo et dans le cinéma. Hein, donc cette question du flou, c'est plutôt de l'ordre d'une... C'est pour ça que je parlais d'une question esthétique en fait. Hein, ce qui est en jeu, c'est des questions de vision et de visibilité. Et qu'est-ce que permet le flou pas seulement en fait sur la question de l'irreprésentable, même si c'est au cœur de l'exposition, mais aussi des enjeux qui sont liés à des questions liées à la distance. C'est-à-dire à notre position en tant que spectateur. Alors, cette position en tant que spectateur, elle porte sur des questions historiques, hein, mais pas seulement, en fait. Hein. C'est-à-dire que on est quand même constamment dans l'exposition, mis en situation, en fait, de déplacement, hein, qui soit temporel, physique, géographique, historique. Et c'est ça qui m'a semblé extrêmement pertinent, en fait, c'est-à-dire d'être constamment mis en jeu en tant que spectateur, hein, pour essayer de comprendre et d'aller au-delà d'une dimension spectaculaire, en fait, de l'art.
Stéphane Coréard, un dernier mot.
Non, l'exposition est agréable et beaucoup d'œuvres sont intéressantes. Néanmoins, il y a quand même des parties pris qui sont ultra discutables. Par exemple, il y a des pans entiers du flou qui ne sont pas traités. La vitesse, par exemple, auquel on pense quand même dans l'art du XXe siècle. La censure. Le floutage par censure, et d'une manière générale, tout ce qui est lié au corps me semble quand même largement sous-évalué ou évacué. Il n'y a pas la photo de mode, Sarah Moon par exemple, Paolo Roversi, mais en fait il n'y a pas du tout non plus cette notion de désir, d'ivresse du désir, même d'ivresse tout court. On aurait pu penser à des plans de films, par exemple, moi j'ai pensé à Las Vegas Parano, le film de Terry Gilliam sur les effets de la drogue, mais aussi je pense à un peintre comme Claude Garrache ou un photographe comme Miroslav Tichy, où tout converge dans le flou, c'est-à-dire il fabrique lui-même ses appareils, il est tremblant de désir, il doit opérer très très vite dans la rue, et ça, cette notion du désir, du flou, du désir brûlant, et totalement absent de l'exposition, je l'ai vraiment regretté.
Il y a quand même toutes les séries de d'images anonymes qui montrent quand même cette dimension un peu érotique, hein, de la question du flou.
Dans le flou, une autre vision de l'art de 1945 à nos jours, c'est jusqu'au 18 août prochain au musée de l'Orangerie.
Sally Bonne, c'est l'heure de votre coup de cœur, une exposition qui dialogue bien avec celle dont on vient de parler, puisqu'il s'agit d'Horizon, qui peut être flou aussi, lui.
Absolument, absolument. C'est une exposition qui vient juste d'ouvrir au musée de Caen, et c'est une merveille. Ça s'appelle L'Horizon sans fin, de la Renaissance à nos jours. C'est un bonheur de la visiter, tant elle est à la fois juste, intelligente, sensible, précise, et, osons le mot, d'une grande beauté. Dans ce parcours, on va de merveille en merveille, et il faut remercier les deux commissaires de l'exposition, Emmanuel Delapierre et Céline Flécheux, tant elles sont parvenues à faire de ce sujet une vaste et splendide épopée de la représentation. Il s'agit donc de traiter de l'horizon, ce lointain si proche soit-il, pour reprendre une formule de Benjamin désignant Laura. L'horizon est donc cette limite, puisque son étymologie grecque c'est « je trace une limite », limite que je transporte avec moi à mesure que je cherche l'horizon, ou que je cherche à l'atteindre, il échappe, il fuit, il est plein de paradoxes, clos et ouvert, limité et illimité, seuil et franchissement, il est borné et étendu. Il invite au voyage, au déplacement de mon corps et de mes yeux. Il détermine ma position dans l'espace, la portée de mon regard. Il est aussi prolongement au-delà de notre territoire. Bref, il est multiple et fascinant. Il est traité ici en quatre temps qui mettent en relation des œuvres de différentes époques, des traités de perspective de la Renaissance jusqu'à des œuvres très actuelles dans une construction assez fine. L'ouverture se fait par un chef-d'œuvre du musée de Caen, le mariage de la Vierge du Pérugin de 1504, et se poursuit avec l'horizon comme fenêtre ouverte sur le monde que la perspective cherche à représenter en situant le spectateur. Il y a d'ailleurs un traité de perspective 1665 qui est un pop-up et qui est absolument merveilleux d'Abraham Boss. Ensuite, de la perspective aérienne ou atmosphérique, on a Hans Memling, Dürer ou Thibaut Cuisset. Donc on a aussi ces mélanges en fait entre des œuvres de différentes époques. On passe à l'horizon moderne qui défait la relation entre point de vue et horizon et trouve un exemple majeur dans les représentations de la mer, qu'elles soient picturales ou photographiques. Là, on a Courbet, Gustave Le Gray, ou encore Lucas Arruda ou Gerhard Richter, toujours là. L'horizon, c'est aussi un spectacle qui se contemple, comme les romantiques nous l'ont montré, de Friedrich à Elina Broterus. Il se redresse à l'image de cette œuvre de Manet qui s'appelle Évasion de Rochefort, qui est absolument splendide, où l'horizon est une espèce de ligne tout en haut du tableau. Il peut aussi devenir une menace, celle des conflits de la crise écologique dont le paysage se fait l'écho, les horizons marins ou désertiques portant leur lot de drames, Sophie Ristel-Huber ou Tania Moureau. La dernière partie traite de l'horizon de manière plus abstraite, jeux formels, on a Yann Dibetz ou des effets de lumière, Olafur Eliasson, Anna Eva Bergman, à l'image de cette vidéo sur laquelle je finirai, de Jean-Claude Ruggirello, qui raccorde bout à bout des vidéos de coucher de soleil qu'il a récupérées sur Internet, comme une suite sans fin, à la fois infini et sans finalité, c'est superbe.
L'horizon sans fin de la Renaissance à nos jours, c'est jusqu'au 5 octobre au musée des Beaux-Arts de Caen.
À Osaka, en 1957, je peignais une toile de 5 mètres sur le toit d'un building, le Daimaru, et je n'arrivais pas à donner suffisamment de force à ma toile, et j'ai fait un geste que je n'aurais sans doute pas fait dans mon atelier, parce que j'étais précipité par le temps. Il se trouve qu'il y a dans la peinture en public une dimension tout à fait nouvelle qui est celle qui est un peu donnée à l'acteur aussi quand il est sur la scène d'un théâtre. Il est un peu porté par son public et il arrive là à un état presque d'extase ou d'état second qui est tout à fait exaltant et épuisant à la fois.
La voix de Georges Mathieu dans À voix nue sur France Culture en 90. Le peintre nous a quittés en 2012 et La Monnaie de Paris lui consacre une grande monographie en ce moment. Faut dire que l'institution et Georges Mathieu ont collaboré étroitement. La preuve la plus éclatante, c'est la fameuse pièce de 10 francs que l'artiste a créée en 1974, tirée à 674 millions d'exemplaires. Autant dire que les moins jeunes d'entre nous ont tous eu du Mathieu dans leur poche. Fondateur de l'abstraction lyrique, adepte du dripping comme Pollock, Georges Mathieu a connu à cette époque-là une période de popularité éclatante. Il peint en public, fait des affiches pour Air France, son style jaillissant, rapide et reconnaissable entre tous. Mais Georges Mathieu est aussi capable de saillies nationalistes et royalistes et les musées le boudent. L'exposition La Monnaie de Paris ne vise pas la réhabilitation, mais elle resitue Mathieu à la place qu'il occupe dans l'histoire de l'art en France. On commence avec un avis rapide, Stéphane Coréard.
Oui, Marie, les héros de notre enfance sont de retour après Jean-Michel Follon, dont on a parlé la dernière fois quand il était l'invité d'honneur du Festival du dessin d'Arles qui vient de terminer et qui avait dessiné le logo de générique du soir d'Antenne 2, le générique du soir d'Antenne 2 en 1975. Voilà celui qui avait peint le logo de la même chaîne la même année, Georges Mathieu. Je trouve qu'il est crucial de rappeler à l'occasion de cette exposition que les stars d'hier sont parfois considérées comme les ringards d'aujourd'hui, parce que ça nous prépare au fait que les stars d'aujourd'hui seront les ringards de demain, ce qui est toujours salutaire. Alors que Mathieu avait largement disparu des cimaises, même au Centre Pompidou, qui organise cette exposition hors les murs. C'est l'occasion de rappeler, vous l'avez dit, son importance historique, mais aussi la richesse et la singularité de son parcours, ce qui, de mon point de vue, est absolument salutaire et nécessaire.
Salut bonne, salutaire, nécessaire.
Alors, je sais pas. Genre Mathieu a quand même été ringardisé dans les années 80, et il m'a semblé que cette exposition tentait de le réhabiliter en révélant sa grande énergie picturale et sa puissance artistique, qui est réelle, et en l'inscrivant dans une histoire de la peinture qui mène jusqu'au graffiti, on y reviendra j'espère, si on peut s'accorder sur cette énergie démesurée frise parfois, voire souvent, le ridicule, la grandiloquence, voire y plonge, ce que n'échoue pas à montrer non plus l'exposition.
Exposition honnête, du coup, Stéphane Correa.
Mais c'est merveilleux, justement, que cette exposition ne fasse l'impasse sur aucune des dimensions, vous en avez rappelé certaines, Marie, et vous aussi, Sally, de cette œuvre. L'exposition commence très fort, néanmoins, par la présentation, dans une majesté peut-être un peu surjouée, de trois chefs-d'œuvre absolus, monumentaux, La bataille de Bouvines, peinte en 54, 6 mètres de long, Les Capétiens partout, même année, même longueur, et La victoire de Denain, peinte en 63 et d'une longueur encore supérieure de 7 mètres. Ils sont impressionnants, superlatif, paradoxalement virtuose, parce que s'ils sont peints largement directement avec le tube de peinture, si les grands gestes brusques du peintre maculent la composition des éclaboussures en tous sens, il y a en même temps une composition, une sophistication de l'espace intérieur au tableau, une audace des rapports de couleurs, une sûreté du geste sans repentir possible et une extrême tension et concentration qui s'en dégage, qui saute aux yeux. C'est d'autant plus remarquable que ces tableaux ont chacun été peints en une seule journée, et qui plus est en public. Mathieu le disait l'extrait que vous avez passé d'Avoinu, et l'exposition en témoigne dans cette salle avec un extrait d'un rare film de Robert Descharnes qui le montre à la fois en train de peindre ce tableau et en alternance en train de rejouer avec deux amis de manière un peu ridicule, volontairement ridicule, la bataille de Bouvines. Et ce qui est intéressant justement, c'est que je trouve que ce que Sally a perçu comme ridicule me paraît au contraire extrêmement fécond, parce que c'est ce qu'on voit dans les titres des tableaux et cette vidéo et le process dans lequel s'est mis Georges Mathieu, finalement, c'est qu'il fait rimer certains des épisodes supposément les plus héroïques de l'histoire de France avec une pratique quasiment dadaïste de la peinture, puisque le seul antécédent qu'on pourrait citer, c'est la queue de l'âne Boronali trempée dans de la peinture par Roland Dorgelès, qui a peint ce fameux tableau qui s'appelle « Le soleil se coucha sur l'Adriatique », dont j'espère qu'il est à Caen d'ailleurs.
Sally Bonne, on revient sur Georges Mathieu.
Oui, alors Mathieu, c'est vous l'avez dit, c'est la pièce de 10 francs, le cycle d'Antenne 2, le trophée des 7 d'or. C'est aussi une esthétique extrêmement reconnaissable. C'est une espèce d'écriture ou de style signature, une gestuelle vive et appuyée, très nerveuse, des traits noirs entre signe et écriture, calligraphie et gribouillage sur un fond souvent uni. Je dis pas gribouillage dans un sens négatif, c'est il y a quelque chose effectivement d'assez puissant dans sa peinture qui si on l'aime peut être agréable à regarder. Ce n'est pas mon cas, cependant je reconnais cette espèce de vivacité et d'énergie. La dimension ridicule elle est aussi, et c'est vrai, vous avez raison Stéphane de souligner que l'exposition ne fait pas l'impasse là-dessus, parce que en montrant à ce point, d'abord, ces trois grands tableaux dans la première partie avec le film qui l'accompagne, puis dans une salle postérieure, un film de Frédéric Rossif qui était quand même le grand documentariste des animaux et qui tout d'un coup se met à filmer Georges Mathieu en train de peindre. Il s'avance, il s'éloigne de la toile, il a des gestes comme ça tout d'un coup extrêmement rapides, puis un regard très inspiré sur ce qu'il est en train de faire. C'est
gênant.
Non, c'est même pas gênant. C'est drôle en fait. Si on s'accorde sur une dimension d'autodérision de Georges Mathieu, on peut trouver ça extrêmement drôle. Je suis pas du tout certaine de l'autodérision de Georges Mathieu, qui effectivement, vous l'avez rappelé, était royaliste. C'est d'ailleurs une des
un des angles morts de l'exposition, mais quand même une question qui peut se poser. Il passe son temps à peindre des batailles de l'Ancien Régime. Il a un goût pour la période médiévale et aussi pour le Grand Siècle. On voit d'ailleurs dans l'exposition des images de son appartement. On a l'impression d'être avec le Roi Soleil. Enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant aussi, même d'un point de vue décoratif, parce qu'il y a quelque chose d'un peu décoratif aussi dans sa peinture.
Il a décoré des assiettes.
Il était aussi le grand peintre de la période des années 70. Enfin, on a l'impression de l'artiste national, de l'artiste de la République, alors que pour un royaliste, c'est quand même un petit peu étonnant et un peu ambigu. Donc voilà, on a c'est une espèce de figure extrêmement extrêmement complexe, parce que il est entre avant-gardisme et il est un peu réactionnaire aussi. En même temps, il est découvreur de Vols et de Pollock, et en même temps, lui, il produit une peinture qui au fond, enfin, en tout cas, aujourd'hui, mise en regard de Vols et de Pollock, ce qui est le cas dans une des salles, peut paraître quand même un peu problématique. Je sauverai un tableau que j'ai trouvé extrêmement beau, qui s'appelle « En toi te fie », qui est un tableau, la période dite blanche, où on a un aspect de graphisme avec juste un tout petit rectangle noir et un point rouge, et qui est un tableau magnifique.
Stéphane Coréard, il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on revienne effectivement sur la tentative de faire dialoguer l'œuvre de Mathieu avec le graffiti d'aujourd'hui.
Oui, alors justement, en introduction à ça, je voudrais quand même dire que ce qui a beaucoup nui à la réputation de Georges Mathieu, justement, c'est son côté populaire et le folklore qui l'entoure. Je voudrais juste rappeler que c'est des choses qui, chez des artistes contemporains comme Damien Hirst ou Kusama, au contraire, passe très bien. Effectivement, dans cette volonté sans doute de populariser ce travail, on finit l'exposition par, c'est pas le sous-sol, mais on redescend par rapport à l'exposition, par un espace qui est consacré à un dialogue qui est a priori prometteur entre Mathieu et des artistes du graffiti, dans un commissariat partagé entre Éric de Chassé, historien d'art, et le duo d'artistes Leke Sowat, qui s'appuie sur une prétendue admiration des graffeurs envers ce geste, justement, rapide et sûr de celui que Malraux qualifiait comme le premier calligraphe occidental. Donc cinq artistes.
Prétendu parce que vous pensez que c'est pas le cas.
En tout cas, ça ne paraît pas si évident, mais cinq artistes ou duos ont été invités en fait à s'emparer de salles totalement. Alors, il faut dire que l'espace est déjà un peu indigne, c'est étroit, c'est ridiculement bas de plafond. C'est pas, à mon avis, des salles d'exposition normalement. Ensuite, sur l'intervention des graffeurs, on est allé accrocher des œuvres de Georges Mathieu par-dessus. Je ne vois pas pourquoi on accroche des œuvres d'artistes sur un autre artiste. En haut, il y a pas où il y a des œuvres d'autres artistes, il y a pas un tableau de Mathieu accroché sur le Pollock. Et fort heureusement, le dialogue vire immanquablement au mimétisme en défaveur des artistes les plus jeunes, qui parfois sont pourtant des vrais créateurs, mais là sont vus comme des suiveurs. Par exemple, Nacio, qui pousse l'hommage carrément jusqu'au simulacre. Ils ne figurent pas au catalogue, leurs œuvres ne sont pas prises au sérieux. Je trouve que seul Futura 2000, grande star américaine du graffiti, s'en tire, parce qu'il a refusé ce jeu, apparemment. Il y a deux œuvres existantes de lui, elles sont mises dans une salle à part, sans œuvre de Georges Mathieu, mais c'est quand même dommage que le street art, qui est un mouvement majeur, soit résumé à ça.
Georges Mathieu, geste, vitesse, mouvement, c'est jusqu'au 7 septembre prochain à la Monnaie de Paris. Sally Bonne, Stéphane Coréard, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture. Toutes les références sont évidemment sur la page des Midi de Culture.